J'ai une excellente question pour vous. Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas toujours quand il voit de l'injustice sur la terre? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui nous aidera à mieux connaître le Seigneur aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a plusieurs questions à poser au livre d'Ézéchiel aujourd'hui, alors les voici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la date du retour de Jésus-Christ? Qui est-ce qui va venir au secours d'Israël quand cette nation sera attaquée pendant la période de la tribulation? Est-ce que l'Église de Jésus-Christ va vivre la grande tribulation? Qui est-ce qui fait partie de l'Église de Jésus-Christ? Est-ce qu'un croyant peut être béni s'il tolère le péché dans sa vie? Est-ce que tout ce que Dieu fait est bien? Est-ce qu'on a le droit de le critiquer lorsqu'il exerce des jugements? Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas toujours quand il voit l'injustice sur cette terre? Si une personne refuse le moyen de salut que Dieu lui propose, peut-il trouver un autre moyen d'échapper à la condamnation? Y a-t-il réellement des gens qui vont aller en enfer un jour? Restez des nôtres, le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à répondre à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur, c'est avec joie qu'on vient dans ta présence aujourd'hui. On est reconnaissant pour ta parole merveilleuse et on te demande de toucher nos cœurs par cette parole aujourd'hui et de nous donner l'amour et la force pour la mettre en pratique chaque jour. On compte sur toi. Parle-nous, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu les raisons principales qui nous font croire que la Russie est probablement le pays qui envahira Israël lors du déroulement des prophéties d'Ézéchiel. Nous avons cité des arguments linguistiques, des arguments géographiques et des arguments idéologiques. Cependant, comme la nation puissante qui envahira Israël n'est pas désignée par son nom dans l'Écriture et que nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra, il est possible que cette nation ne soit pas la Russie. Trois choses amèneront cette nation à envahir Israël. Premièrement, son accessibilité à la mer grâce à des ports. Deuxièmement, un contrôle sur le transport du pétrole. Et troisièmement, les richesses naturelles de la mer Morte. L'eschatologie ou le déroulement des événements des derniers temps est un sujet difficile, ce qui est évident par le grand nombre d'opinions et de théories variées sur le sujet. Cependant, nous vous avons rappelé la question importante à vous poser. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra chercher son Église, serez-vous parmi ceux qu'il amènera avec lui? Nous vous avons cité plusieurs versets de l'Évangile selon Jean afin que vous vous rendiez compte qu'il est possible d'avoir l'assurance d'aller au ciel. Nous espérons que si vous n'avez pas la certitude d'aller au ciel, vous avez au moins débuté la lecture de l'Évangile selon Jean. Aujourd'hui, nous allons revenir aux événements de la fin des temps prophétisés par Ézéchiel. Nous allons situer dans le plan de Dieu l'invasion d'Israël par une nation puissante du Nord, cette nation étant probablement la Russie. Personne ne peut dire la date du retour de Jésus-Christ. Nous allons situer l'invasion dans l'ordre des événements de la fin des temps. Mais nous n'allons pas lui donner une date, le texte biblique ne nous le permettant pas. En effet, Jésus-Christ a dit « Sachez-le bien ». Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Citation de Matthieu, chapitre 24, versets 43 et 44. Méfiez-vous de quiconque affirme connaître la date. Jusqu'ici, tous ceux qui en ont proposé une se sont trompés. Quand donc aura lieu l'invasion prédite? Les érudits et les exégètes de la Bible sont partagés au sujet de la réponse à donner à cette question. Plusieurs pensent que la Russie envahira Israël à la fin de l'âge ou du régime présent avant l'enlèvement de l'Église. D'autres croient que cela se fera au début de la grande tribulation ou encore à la fin de celle-ci. Il y en a aussi qui pensent qu'elle se fera au début du règne messianique de Jésus-Christ. Je ne vais pas discuter des théories en détail. Je vais plutôt vous présenter la théorie acceptée par J. Vernon McGee, le prédicateur, dont nous traduisons et adaptons les textes. Le verset 16 emploie l'expression « la suite des jours » qui réfère à la période de la grande tribulation. Nous avons déjà parlé de cela en étudiant les autres prophètes. Ce sera pendant que l'Antéchrist exercera son pouvoir. Il obtiendra ce pouvoir en promettant la paix, et la paix régnera dans la première moitié de la période de la grande tribulation. Au cours de la grande tribulation de 7 ans, Magog, qui est possiblement la Russie ou une nation du Nord, descendra contre Israël. Et cette violation de la fausse paix instaurée par l'Antéchrist sera le début de la grande tribulation. Chers amis, lisons Ézéchiel chapitre 38, verset 8. « Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. » Lorsque Israël sera bien rétabli dans son pays, la nation sera sous la domination de l'Antéchrist, qui lui aurait fait croire que la paix régnera désormais sur la terre, que tous les problèmes majeurs sont résolus et que le millénium, le règne messianique, débute. Ce sera faux, et pendant la période de la tribulation, Magog attaquera Israël. Verset 16. « Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. » Qui viendra au secours d'Israël? Puisque Israël est en paix, que les Israélites sont en paix dans leur demeure, puisque l'Antéchrist a séduit tout le monde, Dieu est la seule source de secours possible pour Israël. La guerre va éclater, et les grandes tribulations de la période de 7 ans auront lieu dans la deuxième moitié de cette période. La terre entière subira un holocauste. Un jugement divin n'attendra pas l'autre. Ce sera la guerre dans toutes les parties du monde. Au sujet de cette brève période de 3 ans et demi, le Seigneur Jésus a dit, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Matthieu chapitre 24, verset 22. Si vous lisez la suite de ce chapitre, vous y trouverez la description du jugement de Dieu sur l'armée qui envahira Israël. Maintenant, considérons quelles seront les conséquences ou les résultats de cette invasion. Le chapitre 39 nous donne des renseignements supplémentaires au sujet de la destruction de cet ennemi formidable. Lisons Ézéchiel 38, verset 22. « J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. » Ce verset mentionne 6 plaies dont Dieu frappera Gog, peste, sang, pluie violente, pierre de grêle, feu et soufre. Les 2 dernières plaies sont les mêmes que Dieu avait utilisées pour détruire Sodome et Gomorre. Dans la Genèse, nous lisons, « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu, de par l'Éternel. » Genèse 19, verset 24. C'est de cette façon que Dieu anéantira l'armée qui viendra du Nord pour détruire son peuple. Lisons Ézéchiel chapitre 39, verset 2. « Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. » Il est intéressant de noter comment d'autres versions de la Bible ont traduit ce verset. « Je te ferai sortir de ton pays. » Je te forcerai à quitter l'extrême nord pour aller attaquer les montagnes d'Israël. Bible en français courant. Je te ferai sortir de ton pays si tu es complètement au nord. Je t'obligerai à le quitter pour aller attaquer les montagnes d'Israël. tirée de la parole de vie. Dieu a conduit cette nation vers Israël pour la détruire. Comment sait-on que l'Église ne verra pas la grande tribulation? Dieu nous parle à travers ces versets. Lorsque Dieu était en route pour détruire Sodome et Gomorre, Abraham pensait que cela n'était pas juste. Il a demandé à Dieu, « Ferais-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville? Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ?» Genèse 18, versets 23 et 24. Abraham a répété cette requête pour 45, 40, 30, 20 et 10 justes. Dieu a répondu non et il a envoyé ses anges faire sortir Lot et sa famille de la ville et ils ont dit qu'ils ne pourraient pas détruire la ville tant que Lot, le seul juste, ne l'ait quitté. Mes amis, c'est une des raisons pour lesquelles je crois que Dieu enlèvera son Église avant la grande tribulation. Et par son Église, j'entends les véritables croyants nés spirituellement. L'Église ne subira pas la grande tribulation. Le Seigneur Jésus vient la chercher juste avant et il revient 7 ans plus tard avec elle afin d'instaurer son règne messianique ou son règne millénaire. Pendant la grande tribulation, ce sera l'anarchie et la pagaille. Ce sera une période de temps atroce. L'Église n'assistera pas à tout cela. Ce sont 144 000 Juifs qui témoigneront de Dieu pendant cette période. Après avoir jugé et anéanti l'armée qui aura envahi Israël, Dieu laissera l'Antéchrist régner le monde pendant le reste de la tribulation. Ensuite, le Seigneur Jésus reviendra établir le royaume messianique de 1000 ans. Nous trouvons des renseignements à ce sujet dans le chapitre 19 de l'Apocalypse. Le millénium débute au chapitre 20. Dieu fonctionne selon des principes universels et éternels. Avec ces événements extraordinaires en tête, il serait bon de s'arrêter un moment pour considérer le matériel que nous avons étudié. Après avoir examiné 3 des 4 prophètes majeurs, soit Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, nous voyons certains principes que le prophète Daniel confirmera. Ces principes s'appliquent aux nations et aux croyants à travers tous les âges. Les croyants sont ceux qui ont mis leur confiance en Christ Jésus pour le salut de leur âme et qui croient que la Bible est la parole de Dieu. Mes amis, dans Ézéchiel, nous avons vu Dieu traiter avec la nation d'Israël. C'est littéralement qu'il faut interpréter ces textes. Cependant, nous pouvons appliquer les principes à notre situation puisque le Dieu qui traite avec Israël est le même Dieu qui traite avec nous. Il possède les mêmes attributs et les mêmes qualités. Les principes selon lesquels Dieu fonctionne avec Israël sont les mêmes qu'il emploie en traitant avec le reste de la planète. Ce sont des principes éternels, fondés sur les attributs d'un Dieu éternel et immuable. Nous avons examiné certains principes en étudiant Ésaïe et Jérémie, et maintenant, je suis prêt à en faire autant avec le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel met l'accent sur la gloire et la sainteté de Dieu, comme aucun autre prophète. Il a vu la gloire de Dieu au cours de visions rapportées au début du livre. Il n'a jamais oublié ces visions. Nous ne devrions pas les oublier, nous non plus. Ézéchiel met donc l'accent sur les jugements de Dieu. Notre Créateur est patient et il ne désire pas que nous périssions. Il a souvent averti son peuple au sujet du jugement, mais celui-ci n'a rien voulu entendre. Il ne s'est pas repenti pour revenir à Dieu. Comme annoncé, Dieu a détruit Jérusalem et ensuite Ézéchiel a encouragé le peuple en lui faisant porter les regards vers l'avenir. Mais, dit Ézéchiel, un autre ennemi se manifestera. Lorsque le Seigneur Jésus est venu sur terre, il a pleuré sur la ville de Jérusalem. Il savait que Titus, un futur empereur romain, détruirait la ville en l'an 70, tout comme l'avait déjà fait Nebuchadnezzar. Nous ne pouvons pas être bénis tout en tolérant le péché dans notre vie. les choses allaient mal à Jérusalem, et pour continuer de jouir des bénédictions divines, la ville devait corriger la situation. Les menteurs devaient cesser de mentir, les voleurs de voler, les anarchistes devaient se ranger, et la justice devait régner dans la ville. Dieu pouvait bénir Jérusalem lorsqu'il était craint et respecté par la population en général. Avant de faire l'expérience de l'amour, de la miséricorde et de la bonté de Dieu, la conduite d'une nation ou d'un individu doit être juste. Jérusalem et le peuple étaient dans l'erreur, et leurs pensées n'étaient pas celles de Dieu. Parce que leurs pensées n'étaient pas renouvelées par Dieu ou sa parole, leur conduite était mauvaise. Le peuple vivait dans le péché, et Dieu était justifié de le condamner. Dieu ne peut pas bénir des croyants qui marchent dans le péché. Cela est évident lorsque nous comparons Ézéchiel et Jérémie. Jérémie révèle le cœur de Dieu, un Dieu miséricordieux qui ne veut pas que qui que ce soit périsse. Dieu préfère sauver les pécheurs que les condamner. Dieu désire que tous soient sauvés et il s'implique dans l'histoire de l'humanité. Dans l'Évangile, selon Jean, nous avons appris que la parole, Jésus-Christ, s'est faite chair et qu'elle a habité parmi nous. Ceci démontre l'amour de Dieu et le fait qu'il se préoccupe de nous. Jésus et Jérémie ont pleuré parce que Jérusalem serait détruite. Tout ce que Dieu fait est bien. Dans le livre d'Ézéchiel, nous voyons la destruction de la ville sous un angle différent. Alors que la ville était en train d'être détruite, la femme d'Ézéchiel est morte et Dieu a interdit à son prophète de porter le deuil. Il devait se comporter comme si rien n'était. Dieu a pleuré sur Jérusalem, mais il n'a pas porté de deuil à cause de sa destruction. Il ne s'est pas repenti de son action, car il était justifié de détruire la ville. Dieu a puni Jérusalem avec des larmes aux yeux, et il a détruit la ville, mais il agissait selon son caractère et ses attributs. Il a fait ce qui était bien, comme Dieu le fait toujours. L'apôtre Paul a posé une question. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Romains chapitre 9, verset 14. Bien entendu, il n'y a aucune injustice en Dieu. Tout ce que Dieu fait est bien. Les jugements de Dieu manifestent sa gloire. Sa grâce est démontrée par son plan rédempteur. Si Dieu n'avait pas pourvu un sacrifice pour le rachat de notre âme, nous serions tous perdus. Au chapitre 38 et 39 du livre d'Ézéchiel, nous avons vu que le royaume nordique qui va envahir Israël et que Vernon McGee et de nombreux érudits identifient à la Russie sera détruit. Nous pouvons nous demander pourquoi Dieu va-t-il détruire cette nation qui est possiblement la Russie. Relisons le verset. « Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. » Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ézéchiel 38, verset 16. Que compte faire Dieu? Il va détruire cette nation. J'entends des auditeurs dire, est-ce que tu penses que Dieu va faire une telle chose? Certainement. Les théologiens libéraux ont de la difficulté à accepter que Dieu, le Créateur, puisse détruire ce qui lui plaît. Par exemple, ils n'acceptent pas que Jésus-Christ ait maudit un figuier et fait périr un troupeau de porcs. Lorsqu'il participait à une conférence, le pasteur Vernon McGee a rencontré un théologien libéral qui a presque pleuré parce que Jésus avait fait périr un troupeau de porcs. Rapporté par Matthieu chapitre 8, versets 30 à 32. Cependant, cet homme a mangé une portion généreuse de bacon tous les matins de la conférence. Dieu est juste et saint, et nous n'avons pas à le critiquer parce qu'il choisit d'exercer des jugements. Versets 6 et 7 d'Ézéchiel chapitre 39. J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Est-ce que Dieu va détruire la Russie? Il affirme qu'il va détruire Magog et ceux qui habitent en sécurité sur les îles avoisinantes. Magog, qui a d'excellentes chances d'être la Russie, sera détruite. Plusieurs personnes se demandent où est Dieu aujourd'hui. Pourquoi ne protège-t-il pas son peuple aujourd'hui? Dans plusieurs pays, les chrétiens doivent se rencontrer dans la clandestinité. S'ils sont découverts, ils sont persécutés. Dans certains pays africains, lorsque des rebelles prenaient le contrôle d'une ville ou d'un village, ils exécutaient toute personne susceptible de devenir un leader pour s'opposer au nouveau régime. Les pasteurs et les chrétiens de différentes religions étaient systématiquement exécutés. Dans de nombreux pays, les chrétiens sont réprimés et persécutés. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Nous voyons très peu de crainte de Dieu dans le monde. Nous percevons Dieu comme un grand papa gâteux qui ferme les yeux sur l'injustice dans le monde, comme un grand papa bonasse qui ne sévira pas contre le péché de ses petits-enfants. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas en voyant l'injustice? Il le fera en son temps. Il manifestera sa gloire, mais ce ne sera pas un acte de vengeance fait parce qu'il est irrité ou qu'il a perdu la maîtrise de lui-même. Dieu jugera le monde, et lorsqu'il le fera, on le craindra et on le respectera. Tous sauront que Dieu est saint. Les petits êtres humains minuscules s'inclineront devant lui. Une question que Dieu ne peut pas répondre. Dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 2 verset 3, nous lisons « Et penses-tu, homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu ?» L'homme n'échappera pas au jugement de Dieu. Il ne s'en tirera pas avec son péché. Dans Hébreux chapitre 2 verset 3, nous lisons « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. » Mes amis, même Dieu ne peut pas répondre à cette question. Si nous négligeons le moyen de salut qu'il nous propose, il n'y aura pas moyen d'échapper à la condamnation. Il n'y a aucune réponse à cette question. Maintenant, je vais utiliser une expression qui scandalise les théologiens libéraux. Je vais utiliser le mot « enfer ». Il n'y a pas que les théologiens libéraux qui détestent ce mot. Il y a aussi des soi-disant évangéliques qui essaient de faire de notre monde une meilleure place pour aller en enfer. L'enfer est une dure réalité. Interprétez l'endroit comme vous le désirez, mais c'est un endroit où le Dieu saint enverra ceux qui ne se seront pas repentis de leur rébellion contre lui, ceux qui pêchent impunément, qui blasphèment le nom du Dieu saint autant qu'ils le veulent, et qui vivent dans la débauche au nom de la liberté. Mes amis, Dieu manifestera sa sainteté, et tous reconnaîtront qu'il est un Dieu saint et juste. Dieu a aussi démontré son amour en envoyant son Fils pour nous sauver. Si nous portons le nom de Dieu, nous devons nous tenir loin du péché. Nous devons craindre Dieu. Il n'est pas notre copain ou notre pote. Il est un Dieu saint et nous ne pouvons pas présumer de sa grâce. Si nous péchons, nous serons jugés et nous lui rendrons des comptes. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplira. Et nous ferions mieux de nous y soumettre immédiatement. Et son premier pas qu'il exige à l'humanité, c'est qu'elle se repente et croit en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, en son don d'amour qu'est la vie éternelle. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant le prophète Ézéchiel, le chapitre 40. À vous tous, bonne lecture.
Merci, Régin. Je suis vraiment étonné de voir à quel point le Seigneur nous parle du salut à travers des écrits qu'il a inspirés au prophète Ézéchiel, longtemps même avant la venue de Jésus. Donc, il va sans dire que c'est bien longtemps avant le 21e siècle. On peut voir que Dieu ne change pas et que sa parole, de la Genèse à l'Apocalypse, ne change pas non plus. Il n'y a pas un seul endroit dans la Bible où sa parole se contredit. C'est pourquoi on peut compter sur lui, sur sa parole. Quel Dieu merveilleux! Je suis vraiment heureuse de lui appartenir, d'avoir fait le bon choix, d'avoir dit oui, Seigneur, quand il m'a offert le salut. Mes amis, Réjean nous a mentionné aujourd'hui que si nous négligeons le moyen de salut que Dieu nous propose, il n'y aura pas moyen d'échapper à la condamnation. C'est vraiment grave. Vraiment sérieux, n'est-ce pas? Et ça ne venait pas d'une interprétation de Réjean, là. Ce qu'il a dit peut être confirmé dans la Bible, la parole de Dieu. Dans le 16e chapitre de l'Évangile de Marc, au verset 16, Jésus a dit ceci. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Mes amis, quand je partage l'Évangile avec les gens, il y en a qui me disent qu'il est impossible que Dieu condamne une personne. Dieu est amour. Oui, mes amis, Dieu est amour. Mais il est aussi juste. C'est pourquoi il doit punir le péché. Dans le livre de l'Exode, au 34e chapitre, verset 7, il est écrit que Dieu ne tient point le coupable pour innocent et qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est très sérieux. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans son amour, Dieu a envoyé son Fils Jésus sur cette terre. Et Jésus est mort sur une croix pour payer la dette de nos péchés. Il a reçu la condamnation qu'on mérite tous pour nos péchés. Et nous savons que nous sommes tous des pécheurs, puisque Paul nous le dit dans le 3e chapitre de son épître aux Romains, au verset 23. Il dit que tous ont péché. Mon ami, Dieu doit punir le péché. Mais tu n'es pas mal pris si tu crois en Jésus, si tu ne crois pas seulement que Jésus existe, mais qu'il est le Fils de Dieu, Dieu fait homme, et qu'il est mort sur la croix pour toi personnellement. Moi, j'ai la certitude qu'il est mort sur la croix pour moi personnellement. Il a tout accompli pour payer mon entrée au ciel et pour payer ton entrée au ciel. Alors, mon ami, repens-toi. Change de direction à l'égard du péché. Cesse de vivre ta vie à ta manière. Aujourd'hui même, en ce moment, Jésus s'invite chez toi. Dans le 3e chapitre de l'Apocalypse, au verset 20, il dit ceci. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Mon ami, ouvre la porte de ton cœur. Laisse entrer Jésus. Demande-lui tout simplement de te sauver. Reconnais que tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu vas me dire, mais me sauver de quoi? Eh bien, te sauver de la condamnation, de l'enfer éternel. Maintenant, dis-lui, Seigneur, sauve-moi. Si tu crois de tout ton cœur, il va le faire. Mon ami, je t'en supplie, n'attends pas à demain. Reçois Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Un Seigneur, c'est un maître. Que Jésus soit ton maître, que ce soit lui maintenant qui va diriger.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne. Comme toi, Réjean, la dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca. ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.